Bonjour, ici Herbel Brisson au micro de Diva FM pour une nouvelle émission de C'est à savoir. Lorsqu'on écoute les informations, il n'y a que peu de nouvelles qui redonnent espoir dans un monde où les peuples se jalousent, se volent, s'étripent et sous le moindre prétexte se font la guerre. Un monde pourtant fait d'hommes et de femmes qui naissent, grandissent, font des enfants, aiment et devraient coexister sans vouloir oxyre son voisin, sans prendre son territoire, sans le faire souffrir. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main et partager un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins. Ah, messieurs Marcel Achard et Georges-Eugène Van Paris, lorsque vous avez écrit ces paroles, avez-vous pensé un seul instant que celles-ci resteraient des vœux pieux et que, hélas, tous les gars du monde ne veulent pas se donner la main? Pour éviter cet amical mélange, l'homme a inventé la guerre, celle qui détruit, qui tue, qui fait mal, qui coûte, et au final ne sert à rien, puisque les peuples appelés à partager cette terre hospitalière finissent tant bien que mal à s'accommoder du belliqueux voisin. Seuls ceux qui tirent les ficelles bien au chaud et surtout bien protégés derrière leur bureau estiment que la chair à canon, c'est le peuple. Les petites gens, les sans-dents, comme dirait l'autre. Eux peuvent tout perdre, quitter leur pays, leur maigre bien, pleurer leur mort, qu'importe. L'essentiel n'est-il pas que tel président, tel général, tel ministre des armées sortent glorieux et que l'histoire avec un grand H raconte leurs combats qu'ils n'ont pas menés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drame qui, une fois encore, touche un peuple qui pourtant n'en avait pas besoin, un peuple qui a subi le génocide, qui a subi l'exode. Ce peuple, c'est l'Arménie, ancienne république socialiste soviétique, dont la capitale est Erevan. Ce pays coincé à l'ouest par la Turquie, au nord par la Géorgie, à l'est par l'Azerbaïdjan et au sud par l'Iran et la région autonome du Nakhitchevan. Un drame dont va nous parler mon invité qui a bien voulu témoigner, puisque lui-même d'origine arménienne. Mais avant de vous le présenter, permettez-moi de parler de celle qui, oh la vilaine, a durant de longs mois privé celui qui présentement vous cause de micro. J'ai été privé de micro, donc du contact avec ses auditeurs, essentiel à la survie d'un pauvre animateur en manque, mais rassurez-vous. J'ai survécu et obtenu qu'elle me supporte encore quelques décennies, lui ayant fait la promesse que, évidemment, je ne tiendrai pas de débrancher le micro le jour de mes 100 ans. Mademoiselle Jennifer, puisque de vous il s'agit, bonjour.
Bonjour cher ami, heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Diva FM. Oui, je ne vous ai pas longuement privé et puis il fallait que vous preniez soin de vous aussi cher ami pour nous revenir le plus en forme possible et en plus avec un thème qui est non des moindres très important et sur lequel ça a été encore une fois la rencontre Armel comme celle que nous avions eue il y a déjà 8 ans ensemble et pour lequel nous formons ce duo. Oui, une rencontre lorsque j'ai été à la Foire Internationale de Marseille et que j'ai été touché par les mots de toutes les personnes qui ont représenté ce jour-là la communauté arménienne et pour lesquelles on sentait un cri de détresse. On voulait les écouter, on voulait prendre acte un petit peu de tout ce qu'il se passait et je me suis retrouvée quand même face à ce discours et en plus je me suis dit mais moi je n'y comprends pas forcément grand-chose, je ne savais pas qu'il y avait tout cela et je me suis dit c'est dommage que ça ne soit pas plus médiatisé. Et donc, c'était l'occasion aujourd'hui, et surtout à travers votre émission, cher Armel, de le faire. Et grâce à la rencontre que je remercie d'ailleurs de Marie-France Souret, présidente de l'ES13, elle m'a permis de rencontrer aujourd'hui monsieur le député qui est ici même et qui nous fait l'honneur, sincèrement, de venir parler sur ce plateau, accompagné de son attaché de presse. Nous serons là donc pour parler pendant une heure de ce que vous entendez, peut-être pas assez aux informations. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours envie d'entendre ce mot guerre, génocide, mais pourtant qui est une triste réalité. Et j'ai été interpellée également quand j'ai entendu, et je le disais encore tout à l'heure hors antenne, qu'on entendait que sur Marseille, la population, il y a un Arménien qui sur 10 personnes à Marseille, il y a un Arménien, une personne d'origine arménienne, voilà, sur 10 habitants. Et ça fait donc une sacrée communauté ici à Marseille présente et ils ont envie de se faire entendre. Et c'est l'occasion aujourd'hui à travers donc la voix de monsieur le député Didier Parakian.
Alors, monsieur Didier Paraquéan, vous êtes député de la première circonscription,
cher ami.
Des Bouches-du-Rhône, oui, à mes souhaits. Vice-président de la métropole ex-Marseille et avait été adjoint de Jean-Claude Gaudin en 2008. Vous êtes député depuis le 21 août 2023, mais ce n'est pas l'homme politique que je reçois aujourd'hui, mais Didier Paraquéan, l'homme d'origine arménienne, et vous allez nous expliquer cette guerre, incompréhensible pour nous, parce que très compliquée, politiquement parlant. Et vous êtes accompagné de Sacha Vété Kazarian, qui est votre collaborateur parlementaire, et je crois, vous m'avez dit hors antenne, très féru en histoire. Donc, messieurs, merci de votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Alors, déjà, monsieur le député, vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale parce que vous étiez le binôme d'une dame qui est devenue maintenant ministre. Madame Sabrina Agresti-Roubache, et qui est ministre de la Ville. Voilà. Et c'est une grande fierté pour vous, et je pense pour toute la communauté arménienne que vous représentez.
Oui, merci. Grazie mille, Armel, di questo bel invito, e a tutti gli ascoltatori di Diva FM un abbraccio forte.
Grazie, grazie. E benvenuti.
Oui, effectivement, cette nouvelle fonction, ben, je la dois à... Je l'appelais avant ma députée préférée, mais maintenant je vais l'appeler ma ministre préférée, Sabrina Agresti-Roubache. Nous nous sommes connus il y a 5-6 ans, alors qu'elle était tout juste nouvelle élue à la Chambre de commerce en charge du cinéma. Et moi, en tant qu'élu en charge de l'attractivité, de l'économie avec Jean-Claude Gaudin, nous étions allés à Hollywood pour vendre Marseille, terre de tournage. Et c'est là qu'on a rencontré Universal, Warner, Netflix, qui après, dans la foulée, a fait la série, la saga Marseille. Et puis je me suis dit, cette fille, elle a du talent, cette fille, elle a du charme, cette fille, elle va aller loin. Et effectivement, on s'est rencontrés 5 ans après. Et elle me dit, Didier, je vais partir en campagne des législatives. J'aimerais vraiment que tu sois mon binôme, mon suppléant, mon remplaçant. Et je lui ai dit, allez, banco, on va faire ensemble une belle campagne, on va faire une... parce que je connais bien la première circonscription, c'est le 11e, 12e arrondissement. Vous avez parlé de beaucoup d'Arméniens à Marseille. Oui, 10% de la population est d'origine arménienne et beaucoup habitent justement dans ces quartiers de Saint-Barnabé, Beaumont, les Trois-Lucs. Et donc, cette campagne a été belle, cette campagne a été dure et le résultat a été là. Et puis, un an après... Sabrina a été appelée au gouvernement cet été. Après, elle est secrétaire d'État en charge de la ville, mais aussi du Marseille en grand. Alors je suis allé la visiter la semaine dernière à Paris dans son ministère. Et quand vous voyez le ministère, il y a beaucoup d'émotions quand vous voyez des photos de Bernard Tapie qui a été ministre de la ville en 92. Quand vous voyez des photos de Jean-Claude Gaudin, ministre de la ville en 96. Et quand vous voyez cette jeune personne. Que la ville de Marseille est belle, qu'elle donne des talents. Moi, j'appelle ça l'ascenseur social. Et dans son livre qu'elle a écrit, La France, je la kiffe. Marseille, c'est effectivement ça. C'est de belles histoires. On peut arriver, partir d'un quartier de Marseille et arriver au ministère de Paris. Et c'est vrai que cette cause arménienne qui me va droit au cœur, puisque vous le savez, mes grands-parents sont arrivés en 1920 à Marseille après le génocide des Arméniens. Marseille a tout donné à ma famille. Elle a permis donc à mon grand-père de s'installer, de travailler, de s'intégrer. Puis mes parents d'être des commerçants bien installés du côté de la rue de Rome sur Marseille. Puis à moi-même de pouvoir créer une ligne de vêtements qui portait modestement, je dirais, mon nom, Didier Paraquéan. Et cette ligne m'a permis de rayonner dans le monde entier et beaucoup en Italie, puisque je fabriquais du côté de Carpi, vicino Modena. Et donc, j'allais très souvent en Italie. Cette ville m'a tout donné. À un moment donné, quand je fais la rencontre de Jean-Claude Gaudin, c'était en 2008, je me dis, quoi de plus beau que quand cette ville qui vous a tout donné, mais pouvoir lui rendre, et quoi de plus noble que de s'engager comme élu de la République aux côtés de Jean-Claude Gaudin, qui a été mon mentor en politique, et c'est comme ça que je suis devenu son adjoint à l'international, puis à l'économie, et puis par la suite, vice-président de la métropole en charge des relations internationales avec Martine Vassal, et puis cumul des mandats oblige, j'ai dû démissionner de mon poste de de vice-président de la métropole pour aujourd'hui me consacrer pleinement depuis 15 jours à mon poste de député de la République. Vous savez, pour moi, c'est un grand honneur, fils d'immigrés, fils d'une communauté qui dont Marseille a tout donné, mais qui a envie de rendre le meilleur maintenant à la nation. Donc voter des lois, c'est important. Défendre des combats, c'est tout aussi important. Et c'est ce que je fais depuis 15 jours maintenant. Découvrir le Palais Bourbon, c'est un moment d'intense émotion, d'immense fierté, de porter cette étoile bleue. Ce ruban bleu, blanc, rouge sur la poitrine, je peux vous dire que ça me fait vraiment beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'honneur à moi d'être à la hauteur. Et comme je dis souvent aux habitants de notre territoire, vous savez, un député, c'est quoi ? C'est un serviteur de la République. C'est un homme qui essaye de régler des conflits, qui facilite la vie. En tout cas, moi, j'aime les gens. Et donc, quand vous aimez les gens, vous donnez le meilleur de vous-même. Et c'est la mission que je souhaiterais, ce cap, cette ligne directrice. Toujours dans la vision, toujours rêver grand, toujours vouloir le meilleur pour son territoire et pour ses habitants. Et défendre les valeurs de fraternité, de solidarité et d'accueil, puisque ce territoire, cette ville de Marseille est une terre d'accueil.
C'est une terre, une ville très cosmopolite, justement. Toute idée politique mise à part, je crois qu'il y a de tout dans Marseille. Et justement, comment un député, enfin un enfant de la ville, qui est maintenant à de hautes fonctions, comment appréhendez-vous justement, toute idée politique mise à part encore une fois, toutes ces différences ?
Alors vous savez, moi ce que j'ai aimé dans le président Emmanuel Macron, c'est qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on prend les bonnes idées là où elles sont. Parce que depuis quelques années, depuis que le président est arrivé à son poste de président, il a un peu fait éclater tous les systèmes. Et donc... moi, c'est dans cette ligne que je me situe, c'est-à-dire un homme qui aime son territoire, et il aime tellement son territoire qu'il veut le meilleur. Aujourd'hui, vous savez, on n'a pas à rougir de l'évolution, de la métamorphose de ces territoires. Vous savez, la semaine dernière, nous avons accueilli le pape à Marseille. C'était un moment historique. En ce moment, nous accueillons la Coupe du Monde de rugby. Et l'année prochaine, nous accueillerons les Jeux Olympiques. Donc ce sont des moments forts et qui font qu'il y a une véritable osmose de tous les Marseillais. Ce matin, j'étais avec la préfète de police qui nous faisait un peu l'état de la saison estivale et qui nous faisait un peu l'état des forces en présence en matière de sécurité, parce que la sécurité, ça reste quand même une des priorités de ce territoire et du gouvernement. Et donc, elle me disait que ces événements s'étaient très, très bien passés. Et Marseille sait se retrouver, sait organiser des grands événements pour le meilleur de ses habitants. Mais je crois que la question que vous m'avez posée, on s'en éloigne, c'est de parler de l'Arménie. C'est pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui.
Absolument, oui, parce que c'est vrai que, déjà, juste une petite parenthèse, le 100% arménien que vous êtes, le 100% français que vous êtes, le 100%, là, allez, le 50% un peu italien que vous êtes, ce soir, il va vibrer pour qui ?
Alors, effectivement, mon cœur, il vibre pour toutes ces... toutes ces spécificités. Oui, c'est Aznavour qui disait ça, 100% français, 100% arménien, 100% marseillais, et les 100% italiens. En tout cas, c'est vrai que ce peuple arménien souffre. Vous savez, le peuple arménien a subi le premier génocide du XXe siècle, et il est en train de subir la première épuration ethnique du XXIe siècle, et ça dans un silence assourdissant. Le monde détourne le regard. Et puis, il y a quelque chose qui me gêne aussi, parce qu'on parle des Arméniens comme des séparatistes. Mais les séparatistes, les Arméniens n'ont jamais été des séparatistes. Ils souhaitaient vivre tout simplement en paix dans une terre qui s'appelle le Haut-Karabakh, l'Artsar en arménien. Mais ils vivent déjà dans ce pays depuis 3000 ans. Et donc, aujourd'hui, on ne leur a pas laissé le choix. C'était la valise ou la mort. Après le blocus, après la famine... après les bombes, eh bien, ça a été l'exode. Ça me rappelle les tragiques heures que mes grands-parents ont connues, le génocide des Arméniens en 1915. Vous savez, ces 120 000 personnes que nous avons sacrifiées, qui ont été sacrifiées, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs écoles, ils ont perdu leurs églises. Vous savez que les Arméniens, c'est le premier peuple chrétien au monde en 301. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai la force de ce nouveau rôle, de cette nouvelle mission, c'est d'être député de la République, c'est de faire passer des messages. Alors, ce qui est certain, c'est que le président Macron a été le seul chef d'État. Je dirais, la France a été un des rares pays au monde à faire ce que personne n'a fait pour l'Arménie. Il a porté des combats. Il a condamné clairement l'Azerbaïdjan. Et peu l'ont fait, malheureusement. Peu l'ont suivi en Europe ou dans le monde. Donc, je veux lui rendre hommage. Il a fait de grandes annonces, encore pas plus tard que la semaine dernière, où il disait que pour lui, aujourd'hui, il y a deux priorités. C'est la partie humanitaire pour accueillir ces 120 000 personnes. Et puis c'est surtout l'intégrité territoriale de l'Arménie. Parce que Aliyev, ce dictateur, ce génocidaire, cet homme qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit, l'Artsakh était le bouclier de l'Arménie. Parce qu'il a dit, après l'Artsakh, ça sera le Syunik. Le Syunik, c'est la partie sud de l'Arménie, c'est là où il y a les richesses.
La bande côté mer Noire.
Exactement. Et ensuite, ça sera l'Arménie tout entière. Donc aujourd'hui, ça nous a été annoncé. Et donc, notre rôle, c'est d'alerter, c'est de se dire c'est d'aider l'Arménie. Alors, moi, j'ai demandé très rapidement, et je crois que ça a été entendu, puisque j'ai posé des questions, plusieurs questions à l'Assemblée nationale, notamment lors de la commission des affaires étrangères, où j'ai rencontré le ministre de la Défense et des Armées, Sébastien Lecornu. Je lui ai dit, à quand des armes de défense? Quand la France va mettre à disposition des armes de défense, comme elle l'a fait à l'Ukraine ou à d'autres pays? Eh bien, pas plus tard qu'une semaine après mon intervention, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est rendue avant-hier en Arménie et a annoncé de l'Arménie plusieurs mesures très importantes pour l'Arménie. La première, c'est que des armes de défense, du matériel militaire va être fourni à l'Arménie. La deuxième, c'est que la partie humanitaire va être renforcé, puisque aujourd'hui c'est 12 millions d'euros que l'État français donne à des ONG et notamment à la Croix-Rouge pour accompagner ce déplacement de population. Et puis troisième annonce qu'elle a fait, qui est une annonce assez forte aussi, c'est qu'on va rentrer dans l'Europe met à la disposition des États qui le demandent. Ça s'appelle le FEP, le Fonds de solidarité pour la paix. En fait, c'est un fonds que l'Europe a à disposition de 5,7 milliards. Et si l'Europe l'accepte, comme je l'espère, ce fonds pourra servir, comme il a servi en Moldavie, comme il a servi en Ukraine, pour armer les Arméniens ou alors pour envoyer des soldats pour protéger l'Arménie.
Alors, pouvez-vous, vous les historiens, et je me tourne un petit peu vers Sacha, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la quintessence des choses, comment ça s'est passé? Il y a eu cette république non reconnue
du Haut-Karabakh,
l'Artsakh, voilà, et qui n'était pas reconnue par les États, mais qui était un État de fait.
Alors oui, peut-être contextualiser un petit peu la chose.
Parce que c'est vrai qu'excusez-moi Sacha, je vous interromps, mais après, on redonnera du contexte aussi à monsieur le député Parakian, parce que pour savoir aussi, en dehors de ses origines, mais qu'est-ce qui le fait aujourd'hui être là et en parler passionnément de tout cela. Mais c'est qu'en fait, les personnes ne comprennent pas forcément qu'est-ce qui est en train de se passer. On a compris en Ukraine ce qui se passait avec la Russie, mais aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment, parce qu'apparemment c'est une guerre qui existe déjà depuis très longtemps, qui se tait, qui se calme, qui repart. Donc on est un petit peu perdu, et là on ne comprend pas d'un coup qu'est-ce qui refait qu'on est de nouveau carrément, on est aux portes de la guerre, on est de nouveau.
Ce qui a fait qu'en 24-48 heures, ça a été réglé.
C'est ça.
Donc il a fallu quand même... on vous écoute, Serge.
Alors, l'Artsakh, il faut savoir que c'est une terre historiquement arménienne, peuplée d'Arméniens depuis apparemment 3000 ans, avec un patrimoine culturel arménien marqué, un patrimoine aussi fort. Et en 1923, donc sous l'URSS, Staline décide de faire cadeau gratuitement de cette région-là, l'Artsakh, à l'Azerbaïdjan, à la République soviétique d'Azerbaïdjan. À la dislocation de l'URSS à la fin des années 90, plus précisément en 88, lorsque l'URSS perd un petit peu de sa puissance, le peuple d'Artsakh commence à se soulever en se disant « Nous, on veut être rattaché à l'Arménie. On est arménien, on veut être rattaché à l'Arménie. » Ces revendications-là, elles vont être coupées court par le pouvoir communiste azéri, qui va dire « Non, non, on vous a depuis 1923, vous êtes à nous, ces terres sont à nous. » Et les Arméniens répondant « Non, nous, on est arméniens, on veut être rattachés à la République d'Arménie. » Sachant que ce territoire-là, ce petit territoire d'Artsakh, il est vraiment collé à la République d'Arménie. Là, actuellement, il est enclavé en Azerbaïdjan. Il est enclavé, pardon, excusez-moi, en Azerbaïdjan. Donc, s'en est suivi une guerre. Puisque l'Azerbaïdjan a réprimé les manifestations pro-arméniennes par la force. Une guerre gagnée par les Arméniens à l'époque, en 1994, conclue par un cessez-le-feu entre les parties prenantes au conflit, mais gagnée par l'Arménie. Et depuis 1994, ce territoire-là, jusqu'à donc 2020, jusqu'à cette semaine d'ailleurs, le territoire de la République d'Artsakh, autoproclamé, il faut le dire aussi, puisqu'ils se sont prononcés en référendum en 1991, ils ont fait un référendum avec pour question « Est-ce que vous voulez être arménien ?» Ils ont répondu « Oui ». Donc, ils avaient des institutions, la République d'Artsakh avait des institutions, avait un parlement, une assemblée nationale, des élections démocratiques. C'était vraiment une région démocratique avec des dirigeants démocratiquement élus et tout ce qui s'ensuit. Après cette guerre-là de 1914, donc plus ou moins 25 ans de paix, avant qu'en 2016 d'abord, puis en 2020, l'Azerbaïdjan ne tente de reprendre la main sur le territoire. Victorieusement, puisqu'ils ont cette fois-ci gagné cette guerre-là. Depuis 2020, il ne restait qu'une petite partie du territoire entre les mains arméniennes, à savoir la capitale Stepanakert, qui a été coupée du monde, donc c'est ce que disait M. le député tout à l'heure, coupée du monde depuis décembre dernier, puisque Aliyev avait commencé un blocus sur cette république-là. Il empêchait tout forme d'aide, tout soin, tout vivre rentrer en Artsakh. Les Arméniens mouraient de faim. Il y a eu plusieurs cas.
Mais ça, excusez-moi, hein, Sacha. Voilà, vous en parlez divinement bien. Franchement, je vous en remercie parce que aujourd'hui, nos auditeurs vont pouvoir un petit peu comprendre. Mais on l'a entendu nulle part. Ce que vous dites, qu'une population encore aujourd'hui en 2023 se meurt de faim pour. On a entendu l'Ukraine, ça a été aussi dramatique, c'est normal qu'on en parle. Mais on n'a pas entendu, vous dites depuis décembre, c'est bien ça ?
Depuis décembre. Depuis
donc on a coupé tout, tout.
Uniquement par le couloir de la Chine, c'est ça ?
Alors pourquoi on en est arrivé là ? Et pourquoi le silence assourdissant du monde ? Parce qu'en fait, c'est des contrats, je l'appelle les contrats de la honte, les contrats de gaz. Et il faut savoir que l'Azerbaïdjan. Produit du gaz et puis aide à écouler aussi le gaz russe et pour alimenter l'Europe entière. Donc la chance de la France c'est qu'elle n'a pas de gaz russe ni de gaz azéri, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, cette année l'Europe a acheté pour 15 milliards d'euros de gaz à l'Azerbaïdjan et ils ont prévu dans les deux ans à doubler, donc à 30 milliards. Et donc,
c'est un territoire d'intérêt,
c'est ça.
Économiquement riche.
Le Caucase et ça arrive jusqu'à l'Italie.
Exactement, et c'est pour ça, d'ailleurs, vous parlez des Italiens la semaine dernière. J'avais un peu de tristesse parce que mes amis italiens, qui sont. On est très proches, les Italiens, ils sont venus à l'Assemblée nationale et on avait des députés de l'Assemblée italienne. Et je leur ai posé la question. J'ai dit, quelle est votre position sur le conflit que nous avons aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Ils étaient un peu gênés aux entournures parce qu'en fait, eux, l'Italie s'approvisionne beaucoup
avec le gaz.
Et donc, vous voyez, dans la balance, quand vous mettez, et d'ailleurs, Haro à Patrick Pouyanné, qui est le président de Total, qui va à Azerbaïdjan discuter avec Aliyev pour lui dire la qualité du gaz que nous arrivons à extraire est magnifique. Vous voyez, et en face de ça, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont en train d'être affamés. Alors aujourd'hui, on essaye tant bien que mal, de les accompagner. Quand Ursula von der Leyen, qui est la présidente de l'Europe,
von der Leyen,
chaque fois j'ai du mal à...
C'est pas évident à dire.
Son nom est compliqué pour moi, même à l'entendre. Donc ça aussi, l'Europe, à un moment donné, devrait prendre ses responsabilités. Moi, je salue une nouvelle fois la politique de la France, qui fait que la France donne l'impulsion. Et comme me disait Catherine Colonna, que j'ai rencontrée cette semaine, où j'ai posé des questions encore à l'Assemblée nationale en lui disant quel est le sort des prisonniers. Parce que sur les 120 000 personnes qui étaient bloquées, à 110 000 sont sorties. Il reste 10 000, dont la plupart, ce sont des élites. Et les élites, où ils vont directement en prison. Et ils montrent des images où ils sont en train d'humilier. Et donc, ces gens-là, il ne faut pas les laisser tomber. Je pense à Ruben Vardanian, qui était un des ministres de l'Artsar. Je pense à Haraik Haroutounian, qui était le président de l'Artsar. Je pense aussi à David Ichkanian, qui était le président de l'Assemblée nationale de l'Artsar. Tous ces hommes-là vont être sacrifiés. Et je lance un appel... Il faut...
Mais quand vous dites sacrifier, c'est des peines de mort. Ben, on parle bien de ça.
J'espère qu'on n'en arrive pas à la mort, mais terminer leur vie
en prison.
Dans les geôles azéries, je crois que c'est compliqué. Et puis il y a aussi une façon. Pourquoi on n'en parle pas aussi ? Deuxième raison. Vous connaissez la diplomatie du caviar ? Le caviar, c'est quelque chose que tout le monde mange, que tout le monde aime quand on peut se le payer. Sauf que Aliyev pratique cette politique-là, c'est-à-dire quoi ? Il achète la classe politique européenne, il achète les grandes autorités du monde pour pouvoir avoir la tranquillité, pour avoir le silence. Donc quand en face de ça, vous avez des hommes qui sont prêts à tout, nous, qu'est-ce qu'on a demandé ? C'est des sanctions contre son ambassadrice en France, qui dit tout et n'importe quoi, qui dit que les Arméniens, les 120 000 Arméniens ont quitté l'Artsar de leur plein gré, de leur plein gré, et que c'est une terre, que l'Artsar est une terre azérie. Sauf que si c'était vraiment une terre azérie depuis 2500 ans, il y a des centaines d'églises qui ont été construites sur ce petit territoire. Vous pensez que si c'était une terre
c'est une terre musulmane.
Mais donc pourquoi on aurait laissé
des églises
se bâtir? Et donc aujourd'hui c'est ça aussi le risque, c'est que ces églises vont disparaître. Vous savez, c'est William Saroyan, un poète, un écrivain arménien, qui disait: détruisez l'Arménie, brûlez nos églises, brûlez nos maisons. Quand deux Arméniens se retrouvent, où qu'ils soient dans le monde, ils construisent une nouvelle Arménie. Et c'est comme ça que nous allons continuer à nous battre, dans l'unité, dans la dignité, toujours debout, parce que tel est notre destin.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, de la part de Erdogan...
une complicité,
une
bien
complicité,
sûr. Ah ben, je peux vous dire que... Allez-y. Non, mais moi, Einstein disait aussi: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui ne font rien. Effectivement, vous avez raison, le nouvel allié, l'allié de toujours, pas le nouvel allié, c'est Erdogan, Aliyev, et maintenant, indirectement, c'est Poutine qui est englué dans ses problèmes avec l'Ukraine, qui était le grand frère aussi de l'Arménie, a laissé complètement tomber l'Arménie. Il y avait 2000 soldats russes dans le couloir de la Chine qui étaient censés régler, surveiller, accompagner. Et en fait, ces soldats n'ont rien fait parce qu'ils avaient instruction de ne rien faire. Et aujourd'hui, on voit des images terribles où Stepanakert, la capitale, qui était une ville magnifique, toute reconstruite avec des routes, c'est des centaines de millions d'euros qui ont été déversés par la diaspora, notamment la diaspora française d'origine arménienne, pour construire ces routes, pour reconstruire ce pays. Ouais, mais tiens, c'est cadeau pour le dictateur Aliyev. Ça fait mal au cœur de voir ces images où il y a une semaine que tout le monde a quitté. Déjà, les rues, le changement de dénomination de rue a lieu. La dénomination de Stepanakert, la capitale, ne s'appelle plus Stepanakert. Ils ont trouvé un nouveau nom.
Khankendi, c'est le nom qu'ils donnent à la ville de Stepanakert.
Voilà. Oui, un nom, c'est difficile
en
à prononcer.
En fait, pour que les personnes, c'est dur en radio forcément de mettre les images sur tous ces mots, mais c'est vrai que donc, l'Arménie est un pays qui existe encore, il faut dire, malgré ce génocide qui se passe dans cette région-là. Mais c'est un pays, l'Arménie, qui est derrière la Turquie, qui est entourée par la Géorgie, par l'Iran, par une partie aussi de la Russie, et forcément l'Azerbaïdjan. Et donc cet Azerbaïdjan essaie de reconquérir ce territoire du Haut-Karabakh. Ça ferait penser presque à l'Alsace et la Lorraine. On est d'accord, si on devait faire, on veut récupérer un territoire où les gens se sentent pas du tout Azerbaïdjan, mais au contraire se sentent bien arméniens. Mais on s'en fout de ce qu'ils disent, on s'en fout de leur opinion, de ce qu'ils se sentent. On veut récupérer ce territoire parce que économiquement, il a de la valeur. Et donc, peu importe les pertes humaines, la famine, les personnes qu'on met à la rue, il faudra le reprendre. C'est bien ça le territoire. En quelque sorte, j'essaye de...
Moi, ça me fait surtout penser à l'Empire ottoman, qui s'étendait sur toute la région, avec des régions peuplées d'Arméniens. Et c'est surtout le rêve... Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses trop fictives, mais c'est surtout le rêve d'Erdogan et d'Aliyev de recréer cette zone d'influence, ce qu'on appelle pan-turque, néo-ottomane. Erdogan dit d'ailleurs, il l'a redit à la tribune de l'ONU il y a 10 jours, quelques jours après l'intervention
militaire. Deux pays,
militaire.
Une nation.
Deux États, une nation. Ils veulent recréer cette zone d'influence turque. Et effectivement, quand on se met 100 ans en arrière, ça fait penser à l'état des lieux post-génocide. Il y avait l'Empire ottoman, il y avait l'Empire russe et il y avait l'Empire iranien qui étaient tous les trois à cheval sur la région. Et on est dans la même disposition à l'heure actuelle, avec le petit caillou dans la chaussure de la Turquie, d'Erdogan et d'Aliyev, c'est l'Arménie.
Donc Erdogan qui est le président turc, il faut le rappeler, parce que c'est pas forcément évident de suivre vraiment quand on veut même mener l'actualité, suivre l'actualité, mais il faut savoir vraiment à qui ça concerne à chaque fois.
Le seul territoire en fait qui sépare la Turquie de l'Azerbaïdjan, donc les deux frères, les deux États, les deux nations, le seul État, c'est l'Arménie, qui est coincée donc entre l'Azerbaïdjan et
Oui, pour
et
dire, même si l'Arménie n'existait plus, presque ça serait pour eux...
C'est ce qu'ils cherchent à faire.
Mais vraiment de faire partir toute l'Arménie? Vraiment?
Oui, ce qu'ils veulent, c'est envahir, commencer par la région du sud de l'Arménie, le Syunik, pour ensuite prendre le contrôle de toute la...
Parce que là, on parle du Haut-Karabakh. C'est ça, hein,
Karabakh.
Voilà, mais il reste encore du territoire à l'Arménie.
L'Arménie a les frontières internationalement reconnues.
De l'autre côté de la mer Noire, enfin, en reprenant le couloir
de la Chine.
Voilà, de la Chine, c'est le passage obligé entre les deux pays.
Donc on voudrait quand même faire disparaître complètement un pays, une nation.
L'étape d'après, c'est ce qu'a annoncé Aliyev. Il avait annoncé, nous allons récupérer nos terres ancestrales, l'Artsar, au Karabakh. Et maintenant, nous passons à la vitesse supérieure. C'est pour ça qu'on alerte le monde. Alors aujourd'hui, il y a une urgence quand même, parce que c'est 120 000 personnes qui sont arrivées, 110 000 personnes qui sont arrivées. Donc la France a envoyé...
Monsieur le député, mais où vont ces personnes, ces 120 000 personnes ?
Beaucoup ont de la famille en Arménie. Donc ils sont rentrés en Arménie parce qu'ils n'avaient pas le choix, sinon c'était la mort. Et puis certains ont de la famille en Russie, donc ils partiront peut-être en Russie. Mais l'idée maintenant, c'est de les fixer en Arménie, c'est de les aider, de les accompagner. Et d'ailleurs, je salue une très belle démarche. Nous sommes là, nous allons vous quitter, nous allons aller au consulat général d'Arménie à Marseille, parce que nous sommes fiers d'avoir un consulat d'Arménie à Marseille.
Et monsieur le consul qui s'exprime très bien en français, d'ailleurs, on a pu le voir à la foire.
Et d'ailleurs, il viendra très prochainement, j'espère, sur vos ondes pour être interviewé. Mais on le rejoint parce que, vous savez, à Marseille, il y a une association qui s'appelle le Top 20. Le Top 20, c'est quoi? Ce sont les 60 entreprises les plus importantes, les plus grosses, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la semaine dernière, le président de Top 20, Serge Magdelaine, qui est aussi président du Crédit Agricole, donc c'est des entreprises comme CMA-CGM, comme Honnet, comme la Société des Eaux, comme l'Olympique de Marseille, donc les plus grosses entreprises, nous ont dit, Didier, on veut faire quelque chose pour l'Arménie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Arménie? Donc là, la réunion que nous allons conduire avec la Chambre de commerce franco-arménienne, avec le CCAF, qui est l'association conseil de coordination des Arméniens, nous allons leur proposer à la fois à court terme une partie humanitaire, et à moyen terme, et je pense qu'avant la fin de l'année, nous allons nous rendre en Arménie avec les grandes entreprises pour essayer de faire une aide économique, parce que l'Arménie, pour justement fixer ces personnes, elles ont besoin de travailler, elles ont besoin de retrouver de la vie, et donc nous, modestement, mais avec beaucoup de détermination, nous allons essayer de signer des accords de partenariat, des accords de coopération.
Mais vous pensez que ça suffira en
Non,
fait
ça ne suffit pas, mais
ça
c'est
aidera
juste,
toujours.
Ça aidera toujours, voilà, si on peut
une entreprise... Parce qu'on parle quand même de guerre, monsieur le député, quand même. On parle de guerre, et la guerre, c'est du quoi? De la guerre, comment on imagine, des soldats?
Oui, mais comme l'a dit la France, qui va ouvrir une antenne consulaire dans le Syunik, dans le sud de l'Arménie. Le drapeau français va flotter aux côtés du drapeau arménien. Et comme a dit la ministre des Affaires étrangères, elle a dit, j'étais la première à me rendre en Arménie cette semaine, j'espère que beaucoup d'autres chefs d'État ou ministres vont se rendre de l'Europe entière pour donner un signal fort à Aliyev, ce territoire, cette Arménie, que personne ne la touche, parce que nous serons là, nous serons aux côtés des Arméniens. Donc effectivement, c'est symbolique ce que nous allons faire au niveau économique. Mais si NGE, qui pourrait construire des routes, le fait, si des grandes entreprises comme Bouygues, comme Vinci, peuvent construire des logements pour accueillir ces hommes et ces femmes, qui puissent vivre en toute dignité et retrouver une fierté. En tout cas, moi je dis bravo à Marseille de se mobiliser, et de se mobiliser comme le fait la France.
Parce qu'on a de la chance d'avoir ces grandes sociétés quand même à Marseille qui sont mondialement, je veux dire, reconnues et qui ont une force exceptionnelle, et on en est fiers.
Pourrait-on imaginer que l'Arménie se rallie à l'Europe ?
Mais c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité.
Est-ce que ça serait
l'actualité jouable ? L'actualité qui m'inquiétait plus, c'est celle de la Turquie, qui depuis des années fait des pieds et des mains pour entrer dans l'Europe. Mais heureusement qu'on n'a pas mis le doigt dans cet engrenage-là, parce que déjà, je trouve que l'Europe fait beaucoup pour la Turquie, beaucoup trop, même en matière de soutien, d'aide financière. Et moi, j'aurais préféré, et justement, certains de mes collègues vont rencontrer prochainement la madame Ursula von der Leyen pour leur dire la France aide l'Arménie, que l'Europe fasse la même chose. Et j'aurais une fierté en tant qu'Européen aussi que l'Europe soit aux côtés de l'Arménie.
Oui, puisque on peut imaginer que l'Ukraine, que d'autres pays rejoignent l'Europe, puisqu'ils en avaient fait la demande. D'ailleurs, c'est en cours. Pourquoi pas l'Arménie, puisqu'en final, on a bien Malte qui est aussi éloignée de l'Europe que l'Arménie.
Vous savez, l'ambassadeur de France en Arménie me disait beaucoup de... Peu de pays européens sont mobilisés pour l'Arménie. Il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a la Lituanie, mais c'est tout, ce n'est pas suffisant. Donc j'espère que...
Moi j'aurais même pensé, si vous voulez, quand même une écoute mondiale, parce qu'on parle encore une fois de génocide. Génocide, c'est grave ce mot-là, je veux dire, ce sont pas que des territoires, ce sont pas que des montagnes à coloniser, c'est vraiment... Vraiment un génocide humain, ça veut dire que c'est des pertes humaines, des emprisonnements, je veux dire, quand vous disiez tout à l'heure, affamer des populations, ce sont des femmes, des enfants, des hommes, et le monde ne se retourne pas vers ça, c'est quand même fou aujourd'hui d'en arriver
là. Et en plus, aujourd'hui, il y a des images qui circulent sur les réseaux qui sont même horribles à voir. J'ai de la chair de poule rien que de vous en parler, des hommes qui sont égorgés, des femmes qui sont violées, et filmées par qui ? Parce que moi, on me demande, on m'envoie toutes ces photos et tous ces films, et on me dit, Didier, il faut que tu dénonces tout ça. Mais je leur dis, mais attendez, moi, il me faut des preuves, il me faut la provenance, il me faut des signatures de photographes. Il me dit, mais c'est pas possible de vous donner tout ça, parce que, en fait, c'est les Azéris qui, eux-mêmes, filment leurs atrocités. On les voit parce que sur les uniformes, il y a l'étoile, il y a l'insigne Azéri, mais c'est atroce.
Pour les diffuser sur les réseaux sociaux. C'est l'objectif de ces vidéos-là, c'est de les diffuser sur les... On humilie des Arméniens et on le montre sur les réseaux sociaux. C'est là leur objectif.
Il y a combien d'habitants en Arménie ?
Il y a 3 millions d'habitants en Arménie. Et l'objectif, c'est que ces Arméniens-là restent en Arménie parce qu'il fait bon vivre en Arménie. Moi, j'y étais comme j'y vais pratiquement chaque année pour passer mes vacances, pour me recharger mes batteries d'arménité, comme j'aime dire. Vous savez, on vit très bien à Yerevan. C'est un peuple qui est chrétien, qui est heureux de vivre, qui a des valeurs. Comme les Italiens, comme les Corses.
Parlez-nous de ces valeurs un petit peu pour qu'on arrive à... Parce que peut-être que l'Arménie, c'est quand même, on va dire, un voisin très proche, puisqu'on disait un habitant sur 10 à Marseille est d'origine arménienne. Mais voilà, qui sont les Arméniens? Alors, c'est un peuple chrétien, on l'a compris.
C'est un peuple chrétien, mais à Marseille particulièrement très bien intégré, en France en général très bien intégré. Parce que les Arméniens veulent vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans les valeurs de travail, dans les valeurs de famille, dans les valeurs de fête aussi, parce que nous aimons faire la fête. En ce moment, nous ne sommes pas trop enclins à faire la fête. Et puis c'est des hommes et des femmes qui ont, quand ils sont arrivés en 1920 du côté de Marseille, à l'époque, c'était le maire de Marseille s'appelait Siméon Flessière. Et ce monsieur, maire de Marseille de l'époque, disait « Attention, ils arrivent sur des bateaux, des hommes et des femmes qui sont porteurs du typhus, du choléra et de la peste, et on les appelle les Arméniens. » C'était en 1920. Et c'est pour ça que les différents maires successifs, depuis, n'ont jamais mis de plaque, de nom de rue, du nom de ce maire, parce qu'il a tellement mal parlé des Arméniens. Et vous voyez, aujourd'hui, les Arméniens donnent des succès à la France, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans l'écriture, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Paris, à Valence ou ailleurs. Les Arméniens sont fiers d'être français et ils sont fiers d'être Arméniens.
Aujourd'hui, c'est vrai que Aznavour représentait tellement cette communauté arménienne. Aujourd'hui, d'autres essayent de le faire. Je sais qu'il y a André Manoukian, artiste de musique également, qui porte un petit peu la voix. Il y a un comique aussi,
Mathieu
Madénian également.
Pascal Légitimus, Patrick Fiori, qui est à la fois
arménien et corse,
italien, et oui. Hélène Ségara. Aujourd'hui, des journalistes, aujourd'hui des grands chefs d'entreprise, aujourd'hui des docteurs, des commerçants.
Et même des députés.
Et même des députés, effectivement. C'est le premier député d'origine arménienne de Marseille. Et ça, c'est une fierté. Et ça me donne aussi beaucoup d'obligations, parce que je ne dois pas décevoir. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Vous savez, c'est une fierté d'être à l'Assemblée, c'est une fierté de porter les couleurs de Marseille. Et croyez-moi, le rôle d'un député, oui, c'est de voter des lois, mais c'est aussi de porter des valeurs, des combats.
Parce que vous avez vraiment plusieurs casquettes, hein, monsieur Parakian, quand même. Vous êtes la députée. Il faut que vous représentiez quand même à la fois nos couleurs Marseille à travers la circonscription dans laquelle vous avez été élu. Vous représentez donc aussi bien Marseille, mais aussi la communauté arménienne compte tellement sur vous. Alors vous êtes à la fois républicain français, mais vous avez envie de dire on va parler que de l'Arménie. Mais vous avez tellement, je pense, envie aussi.
Ah, écoutez, moi, j'ai d'autres combats. L'Arménie, bien sûr, ça me va droit au cœur. Mais par exemple, ce Marseille en grand, voulu par le président de la République, ça, c'est un de mes combats aussi. Vous savez, on a la chance d'avoir un président de la République. Jamais un président de la République n'a tant aimé Marseille. Et ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Il aide Marseille.
On parle d'un budget en milliards quand même.
On parle 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, ça correspond à 25 ans de budget d'investissement de la ville de Marseille qui vont être déversés dans la capitale phocéenne en moins de 5 ans. Donc la ville va complètement se métamorphoser, continuer à se transformer grâce à ces investissements colossaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les logements, que ce soit pour la sécurité des Marseillais, que ce soit pour la mobilité, cette ville qui a tant de retard en matière de mobilité. Bref, si je suis... Avec Sabrina Agresti-Roubache, nous sommes les garants de ce Marseille en grand. Nous avons un plan ambitieux pour Marseille. Notre rôle, nous sommes modestement des vigies qui allons faire en sorte que ce plan arrive bien jusqu'à Marseille et que les Marseillais, le maximum de Marseillais, profitent de cette transformation. On est fiers de ce territoire. On a envie d'en faire une capitale de l'Euro-Méditerranée. On a tous les atouts. Les défis sont grands. Mais croyez-moi, on est convaincus qu'une histoire de la ville est en train de s'écrire aujourd'hui.
Alors, il nous reste une dizaine de minutes à peu près avant que vous retourniez voir monsieur le consul d'Arménie. Je voudrais que vous me disiez un petit peu que peut-on faire pour cet exode, pour ces Arméniens qui sont dans le besoin, hormis évidemment ce que vous faites à l'Assemblée, vos contacts avec les ministres, ainsi de suite. Mais existe-t-il des associations, existe-t-il des contacts possibles
J'y vais, moi, ok. Avec plaisir.
Alors, Sacha, à vous.
Avec plaisir. Non, on a des contacts sur place qui nous disent que, principalement, pour l'instant, il faudrait envoyer un petit peu d'argent pour aider ces réfugiés-là qui sont donc à la frontière de la République d'Arménie, qui sont accueillis par les populations locales et par des organisations internationales. Nous, on a une association sur la circonscription de M. le député qui s'appelle la Croix Bleue des Arméniennes de France, qui organise une cagnotte, qui a des membres sur place là-bas à Goris, en Arménie, et qui redistribue cet argent-là sous forme de vivres, sous forme de soins, sous forme de médicaments et de matériel, de vêtements. Et donc, vous pouvez aller voir sur le site internet pour donner. Vous avez d'autres cagnottes aussi d'autres associations.
Je sais, excusez-moi, qu'il y a un message aussi qui passe en ce moment sur les téléviseurs.
Aussi, oui.
Vous l'avez vu ?
J'allais en parler.
Solidarité Arménie au Karabakh. Et c'est un appel aux dons donc de la Fondation de France.org.
Il me semble.
Voilà, donc je sais que là aussi, ils collectent des fonds pour justement aider la population arménienne.
Voilà, donc principalement, c'est des collectes de fonds et ça commence aussi à se mobiliser.
D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir le message et agréablement surprise parce que je me suis dit, ça y est.
Sur
enfin,
France 2, je l'ai vu.
Voilà, c'est exactement ça, ouais. Sur nos confrères de France 2. Je me suis dit, c'est déjà bien, parce que s'il commence à y avoir ce type de message, c'est qu'on prend en considération ce qui est en train de se passer, malheureusement, en Arménie.
Deuxième chose à faire, si je peux me permettre, c'est d'en parler. Et c'est ce que vous faites magnifiquement bien. Parler pour que les gens
soient au courant.
Je vous le dis
en toute sincérité, je vous le dis à tous deux, aussi bien vous, Sacha, que monsieur le député Didier Parakian, c'est que je suis allée en dilettante parce que nous représentions le pavillon italien Diva FM. J'ai été accompagnée de Marie-France Houré et de Martine Vassal, qui elle aussi défend haut et cœur l'Arménie. Et c'est vrai que quand j'ai assisté à tous ces discours, que ce soit de monsieur le consul, mais aussi d'un autre monsieur qui était là.
Garouf Sépian, qui était là. Ancien maire des 13-14.
Voilà, ancien maire des 13 et 14e arrondissements de Marseille. C'est vrai que, voilà, j'entendais ce discours, je me suis dit, soit j'ai raté des étapes médiatiques, et pourtant on est une radio, mais j'imaginais pas à ce point-là où on en était. Et quand je l'entendais avec ce discours poignant, j'ai dit, là, on est en train de rater des étapes, là, on est en train de rater vraiment quelque chose qui se passe et qui est dramatique. Personne ne veut vivre ce génocide. Imaginez-vous, aujourd'hui, demain, on vous demande de partir de vos maisons, d'aller à je ne sais combien de kilomètres avec juste deux valises et votre famille, plus de travail, plus de quoi vous nourrir, plus d'argent. Je veux dire, c'est dramatique. Tant que ça ne nous arrive pas, on ne se sent pas concerné. Évidemment, voilà, on ne l'imagine pas. Et encore plus étonnant que sur des médias tels que celles qu'on voit en télévision ou quoi, pas de message. Je me suis dit, attendez là, soit j'ai raté un épisode. Donc vraiment, voilà pourquoi aujourd'hui cette émission.
Alors moi, d'abord, je voulais vous dire merci du fond du cœur. Merci à Diva FM de nous donner la permission, la possibilité de faire un focus sur l'Arménie. Et vous savez, les Arméniennes de Marseille ont un rêve. Jamais ils ont pu avoir une radio FM, alors qu'ils ont beaucoup de messages à passer, alors que vous le disiez, 10% de la population à Marseille est d'origine arménienne. Pourquoi pas, vous avez la chance d'avoir une belle radio qui rayonne dans toutes les Bouches-du-Rhône, pourquoi pas donner de temps en temps la parole aux Arméniens de Marseille, ça vous feriez un très très beau cadeau. Et le signe des Italiens mélangés avec les Arméniens, c'est ça Marseille. C'est une ville de rencontre, c'est une ville de communauté, c'est une ville de fraternité, de solidarité. Et je vois bien les Arméniens main dans la main avec les Italiens, parce que la force sera plus...
Mais
plus visible.
Vrai. Et puis, on a une communauté aussi en auditeurs arméniennes qui nous écoutent et qui assistent à des événements italiens que nous faisons. Et je vous dis, on a eu cette discussion avec des personnes d'origine arménienne et aujourd'hui, ça a été peut-être le point final grâce à vous deux, vous, Sacha, et vous, monsieur le député Didier Parakian. Et vraiment, surtout, j'avais envie aussi de mettre en avant votre côté humain parce que votre famille est issue justement de ces génocides. Elle est arrivée en 1920 ici à Marseille. Elle a su se reconstruire. Comme vous disiez, elle a su s'intégrer, elle a ouvert des boutiques de prêt-à-porter à la rue de Rome, comme vous le disiez. Vous, je me semble que vous êtes issu d'études de commerce, c'est ça ? Je vous en parlerai sûrement mieux vous que moi. Avec votre sœur, vous avez monté cette chaîne de prêt-à-porter également, qui portait votre nom, Parakian. J'en ai parlé à mon père, je lui ai dit « Papa, tu connais Parakian ?» Il m'a dit « Mais bien sûr, il y avait des boutiques Parakian à Marseille. »
En général, c'est les dames qui connaissent Parakian, parce que j'habillais les dames.
C'était mon papa. Je sais que vous mettiez en valeur les dames, d'ailleurs, c'est souvent ce que vous mettiez.
Les dames étaient habillées, les
messieurs
payés.
Ah, non, c'est pas beau ça. Non, ça c'est vraiment une idée préconçue. Mais voilà, c'est vrai que vous avez porté. Vous êtes un entrepreneur, je veux dire né. Vous avez eu ça dans le sang. Vous avez porté vraiment une belle marque. Vous l'avez faite évoluer. Elle a pris une ampleur internationale. Vous l'avez revendue. Et après, vous vous êtes lancé dans la vie politique. Donc, vous êtes un homme à part entière comme nous. qui avait juste eu peut-être la bonne étoile, je ne sais pas.
Ah oui, complètement, le destin, la bonne étoile, et la tête dans les étoiles, mais surtout les pieds sur terre. et actuellement, les pieds dans la boue, mais en tout cas, on est fiers de pouvoir porter ces combats-là qui nous vont droit au cœur. Et quand on est accompagné, et de belles rencontres comme nous avons fait avec vous, avec Armel et avec toute la communauté italienne, on se sent plus fort, on se sent
et ben je
plus
l'espère,
valide,
sincèrement.
Plus vaillant.
On a tellement... vous savez, quand les Miss France, elles font un discours et qu'elles disent « on rêve d'un monde en paix », et sincèrement, on aurait envie qu'en 2023, le mot « guerre » ne soit plus un mot qui existe et qu'on vive tous sereinement en paix, sans tous ces débarquements aussi où ça n'a plus rien à voir. Mais quand on voit aussi tous ces débarquements en Italie, en Lampedusa, là où vraiment tout cela prend des proportions folles en Italie, c'est dramatique aussi ce qui se passe, mais voilà, on sait plus comment faire, et donc tout ça, on aimerait que tout cela ne soit plus qu'un mauvais cauchemar et qu'on soit dans un monde radieux pour nous tous. En tout cas, la communauté arménienne, elle a sa place ici, elle a sa place de partout, on le voit bien, on cohabite tous ensemble, il y a une très belle église au Prado où d'ailleurs notre ami Thomas me disait s'est marié voilà, une très belle église, elle est magnifique cette église arménienne.
C'est la cathédrale arménienne apostolique. Nous avons la chance d'avoir presque une dizaine d'églises, à la fois apostoliques, catholiques, protestantes, donc la communauté est bien représentée à Marseille en termes d'église.
Et ça a l'air d'être une famille, je veux dire, l'Arménie, la communauté arménienne a l'air d'être une famille qui partage aussi, parce que je vois énormément de personnes qui se mettent à disposition d'autres causes qui ne les correspondent pas forcément en Arménie, aux Arméniens, et vraiment je vois que ce sont des personnes généreuses qui savent aussi recevoir à table, parce que vous avez une très belle gastronomie. Là je fais un petit peu d'aparté,
ouais,
parce
ouais,
que pour
c'est
qu'on
important
donne
aussi,
un petit
ça
peu,
fait partie de nos valeurs, de notre culture.
Oui, parce qu'on ne veut pas qu'elle disparaisse justement, cette culture, voilà, il ne faut pas qu'elle disparaisse, donc c'est vrai que...
Vous avez la bonne pizza napolitaine, nous on a le larmejoun, c'est la pizza arménienne avec de la bonne viande et c'est un délice.
On dit la pizza arménienne.
La pizza arménienne, on a les dolmas, on a les börek, on a de belles spécialités que j'aurais plaisir à vous faire goûter.
Il y a les feuilles de vigne souvent, moi, qu'on m'a fait goûter.
C'est les dolmas, oui, effectivement.
Voilà, c'est vrai que c'est très très bon. Vous parliez tout à l'heure du café, quand je vous ai fait le café, vous parliez vous du café qui est le vôtre avec le mar,
voilà,
etc.
Le café oriental avec le mar, je pourrais vous lire l'avenir si vous le souhaitez.
Alors peut-être c'est pour ça que vous avez la bonne étoile, monsieur Barakian. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on espère en tout cas, vous nous avez éclairé, Armel, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le message, j'espère qu'il est aussi clair pour moi que ce qu'il est pour vous, chers auditeurs, et vraiment de comprendre aujourd'hui l'intérêt et de regarder son voisin, voilà, de ne pas être égoïste, personnel, de comprendre ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas évident de toujours comprendre ces conflits qui sont souvent malheureusement économiques. Ça, c'est malheureusement le nerf de la guerre. Je sais que vous avez été aussi écouté. Vos prochains espoirs, mis à part de dire un monde en paix, ça c'est certain, mais vos prochains espoirs, Didier, pour terminer cette émission?
Mais que, j'en ai plusieurs, bien sûr. Le premier, c'est que la paix soit retrouvée le plus tôt possible, que les Arméniens qui viennent de quitter et qui viennent de tout perdre puissent retrouver un peu de sérénité, retrouver des valeurs à partager, et que la France continue à accompagner ce peuple frère. Et puis, au niveau de mon poste de député, mais donner le meilleur de moi-même pour rendre service, pour rêver grand, et pour qu'on puisse affronter les défis qui sont devant nous. Il y en a beaucoup, et notamment entre l'Italie, entre l'Euro-Méditerranée, devenir ici la capitale de l'Euro-Méditerranée, c'est un rêve que j'ai, mais on m'a toujours appris à dream big, rêver grand, et être ambitieux pour mon territoire que j'aime au plus profond de tous. C'est vrai que nous sommes souvent dur, on est critique avec la ville ou le pays dans lequel on vit, alors qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde, la France, une des plus belles villes du monde, Marseille, qui nous donne beaucoup aux uns, aux autres. Il faut savoir apprécier ces moments de partage. Moi, je suis fier d'être à la fois Marseillais, à la fois Français et à la fois d'origine arménienne.
Parce que c'est vrai que la France vous a beaucoup donné, et vous le dites souvent, et c'est la manière que vous faites aujourd'hui, et notamment dans vos fonctions de tous les jours, de le rendre, parce que vous avez dit la France, elle m'a beaucoup donné, et aujourd'hui je cherche à le rendre, je cherche à représenter aussi la communauté marseillaise, et on est fiers d'être Marseillais, c'est vrai qu'on a reçu le pape, et c'est vrai que ce que j'ai apprécié aussi dans un article que Sacha m'a envoyé, c'était un petit peu aussi ce côté humain que vous avez, parce que vous avez perdu récemment votre papa, Et vous êtes là avec des rencontres parfois que j'appréciais ce monsieur que vous aviez qui vient souvent à votre bureau de Beaumont.
Il est venu hier, d'ailleurs, il est revenu. Il voulait te voir, il cherche.
Et que vous, là, vous le recevez comme ça, je veux dire, si c'était presque un autre papa qui est là.
Donc mais effectivement, ce monsieur, je l'ai connu. Malheureusement, mon papa nous a quittés il y a 2 ans. Et puis, ce monsieur qui vient à l'enterrement, et je lui dis, mais je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Il me dit, écoutez, monsieur, je viens à votre enterrement, à l'enterrement de votre papa, parce que j'aime tout ce que vous faites. Et c'était pour rendre un hommage à votre papa et à votre famille. Et ce monsieur qui me raconte qu'il est pupille de la nation, qui vit depuis 40 ans dans une maison de retraite, qu'il n'a pas de famille, il n'a personne, bien moi, ça m'a touché au cœur. Et régulièrement, je vais le voir dans sa maison de retraite. On a créé des liens d'amitié, des liens de complicité. Et comme notre permanence 65 avenue de Saint-Barnabé, sa maison de retraite est juste à côté, de temps en temps, il vient nous voir. Il vient prendre un apéritif et on parle de la vie, on parle du passé, on parle de cette ville qui nous a tant donné. Et c'est des belles rencontres de la vie, c'est des belles rencontres de Marseille.
C'est sûrement un signe de la vie qu'on vous a envoyé ce jour-là, sur cette épreuve qui n'est jamais facile, forcément, de perdre un parent. Et ben c'est sûrement un signe de là-haut, peut-être, qui vous a été envoyé, une belle rencontre. C'était un petit peu pour... parce que souvent, on se dit, vous savez, monsieur le député, justement, que tous les députés... sont inaccessibles parce que une fois qu'ils ont atteint les plus hautes fonctions, ils sont au Parlement, ça y est, ils ont eu...
justement, j'en profite à dire à vos auditeurs, vous savez, moi, je suis toujours le même. Je sais d'où je viens. Je sais que rien n'est jamais acquis. Quand on a géré une entreprise, quand on est parti de rien et qu'on a gravi les étapes, on sait la valeur des choses, on sait la valeur de l'argent, on sait la valeur des relations humaines. Donc, notre bureau est ouvert... je dirais presque 7 jours sur 7. En tout cas, on est à votre disposition pour vous accueillir, pour vous accompagner. Alors, je dis aussi souvent, on n'a pas la baguette magique. Ne croyez pas qu'on va transformer le monde, on va régler vos problèmes. Mais on va, en tout cas, je peux vous dire qu'avec Sacha, avec toutes mes équipes, on va s'atteler à donner le meilleur de nous et de vous accompagner dans les défis qui sont devant nous.
Qui sont devant nous et peut-être certainement vous retrouver plus régulièrement qu'on le pense finalement sur Diva FM si la communauté arménienne s'invite à ce micro avec pourquoi pas un grand plaisir puisque ça sera pour nous une fierté. Eh bien, on vous accueille avec grand plaisir et vous aurez votre voix ici sur Marseille à travers la FM et ça sera un honneur pour nous. Voilà, tout simplement.
Mille merci pour votre grazie mille per tutti et in bocca al lupo a tutti.
Merci, et bonne chance à tous comme merci. On le disait. Sacha, monsieur le député Didier Parakian, faites du bon travail pour nous, représentez-nous, portez haut les valeurs de Marseille et faites de notre ville encore qu'elle s'améliore parce que je sais qu'il y aurait tant de gens qui auraient de questions à vous poser, mais peut-être on fera une autre émission sur ce thème-là. Quant à nous, nous nous retrouvons vendredi prochain. N'oubliez pas la communauté arménienne, si vous pouvez faire des dons à travers les associations ou sinon, comme je le disais tout à l'heure, à la fondation, c'était Fondation de France, hein, c'est ça.org, pour les aider parce que c'est quelque chose de terrible qui se passe actuellement et vous avez, j'espère, un peu mieux compris aujourd'hui de quoi il en retournait. Et nous, Armel, on mettra encore le micro à disposition d'autres personnes vendredi prochain.
Oui, vendredi prochain, nous allons parler des mobilités, car c'est un gros souci auprès de nos compatriotes. Moi qui habite dans les Hautes-Alpes, je peux vous dire qu'on a énormément de problèmes de transport. À une époque où on vous bassine en vous disant « prenez les transports en commun », encore faudrait-il qu'il y en ait. Et j'aurai le plaisir de recevoir la direction de la FNAUT, Fédération Nationale des Usagers des Transports, qui vient de faire d'ailleurs une conférence de presse ce matin sur justement les mobilités. Et nous allons parler de tous les problèmes inhérents au déplacement des gens. Quand on vous dit ne prenez pas votre voiture, mais allez en vélo, encore faut-il en vélo.
Je suis mis au vélo électrique, moi, cher ami. C'est très bien le vélo électrique.
Mais je ne sais pas si vous avez essayé de mettre vos deux gamins et les courses sur un vélo.
Dans un magasin, maintenant, vous pouvez acheter un vélo qui vous mettez vos deux gamins. Voilà. Et en plus, c'est subventionné par le département. Donc, non, mais je vous dirai tout ça.
Bon,
vous verrez.
Nous verrons ça. Merci encore, chers amis, Didier Parakian et Sacha. Vous savez que vous êtes ici chez vous.
Merci beaucoup.
Hein? Donc,
du fond du cœur, merci.
Au plaisir de vous revoir avec monsieur le consul, peut-être.
Effectivement.
Voilà. Et que d'ailleurs, on va laisser monsieur Parakian
rejoindre.
L'invitation
est lancée. Oui, vous allez rater votre rendez-vous sinon.
Merci.
Merci, à bientôt.
Très bon après-midi à vous tous et à vendredi prochain.
take me away.